Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Créé en 1829 par François Bulloz pour établir une passerelle culturelle, économique et politique entre la France et les sociétés extra-européennes, la Revue des Deux Mondes est aujourd'hui le lieu de débat et de dialogue entre les nations, les disciplines et les cultures sur les sujets majeurs de nos sociétés. La Revue est un laboratoire d'idées et de réflexions, un outil vivant qui incite à agir, laissant à chaque lecteur le soin de se forger sa propre opinion. Michel Crépu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes, dont je viens de lire la présentation sur votre site. C'est une revue présidée par Marc Ladret de La Charrière, qui est membre de l'Institut. Et vous venez pour la première fois au micro de Canal Académie afin de nous présenter la dernière livraison de la revue, un rendez-vous qui sera désormais mensuel. Le numéro d'octobre-novembre 2006 est consacré à l'Arménie, Arménie, aventure d'une nation. Mais avant de venir et d'étudier cette Arménie, est-ce que vous pourriez, Michel, nous présenter la Revue des Deux Mondes de manière un peu plus précise que mes mots que je viens de citer?
Vous avez fort bien cité et je vais évidemment ne faire que répéter en moins bien ce que vous venez de dire. Ce qui est étonnant, si vous voulez, pour cette revue qui est maintenant et de loin la doyenne des revues en France et en Europe et osons le dire dans le monde, c'est le mystère de sa longévité, le mystère de sa pérennité. Pourquoi a-t-elle duré quand tant d'autres sont morts en cours de route? Alors, la réponse est au fond assez simple et en même temps elle est très compliquée parce que, comme toutes les choses vraiment simples, elles sont inépuisables. Et je dirais que la Revue des Deux Mondes a toujours été une revue très généraliste, jamais militante, procédant d'un principe de curiosité qui puisait, au fond, aux sources de l'humanisme européen bien compris. Un esprit de curiosité détestant tout ce qui est extrémiste, simplificateur, réduit à des théorèmes idéologiques. La revue n'a jamais, jamais, jamais été comme ça. Elle a toujours été très curieuse de ce qui se passait, donc voyage, récit de voyage, d'ailleurs en ce qui concerne l'Arménie, on aura peut-être l'occasion d'en parler, intérêt pour la politique, intérêt pour les sciences, tous les domaines en réalité, tous les domaines, une sorte d'encyclopédie au fond, mais pas au sens scientifique du terme, mais plutôt une forme d'esprit qui n'hésite pas à croiser les genres, tout simplement ce qu'on appelait l'esprit de l'honnête homme, jusqu'à ce que cet honnête homme peut-être disparaisse plus ou moins dans les fumées du XXe siècle, mais finalement, pas vraiment non plus, puisqu'on est encore là. Et moi, je me sens tout à fait dépositaire et dépositaire actif, pas simplement gardien de musée. Je ne suis pas du tout le gardien du musée de la Revue des Deux Mondes. Je suis son responsable en acte aujourd'hui, en 2006, et ravi de conduire cette espèce de vieille voiture jusqu'à son bicentenaire, au moins en 2009.
Alors, le sommaire y est évidemment très riche. On y retrouve notamment votre journal littéraire qui est moins académique mais qui n'en est pas moins bon. Il y a également un article d'Henri Madelin sur lequel nous nous sommes arrêtés. C'est un article intitulé « La France de crise en crise ». Mmh. Est-ce qu'il existe un paradoxe de la crise française, une énigme de la crise française? Existe-t-il vraiment une crise française?
Écoutez, peut-être que non. Peut-être que non, peut-être que c'est tout simplement cet état de crise est-il une manière de vivre. Après tout, je me souviens d'un livre paru il y a quelques années qui s'appelait « La maladie humaine », dont il ressortait que cette maladie humaine, c'était tout simplement le fait de s'apercevoir un beau jour qu'on est immortel et qu'on est simplement de passage et que, évidemment, ça fait un peu drôle quand on s'en aperçoit, quoi. Mais après, ça fait réfléchir et puis ça donne éventuellement des œuvres d'art, toutes sortes de choses qui valent le détour, le cas échéant. En ce qui concerne la France, peut-être que c'est la même chose. Simplement, là, ce qui ne va pas, au fond, c'est que peut-être les Français ont oublié qu'ils étaient des grands connaisseurs de la crise, justement. C'était des gens qui étaient habitués par leur littérature, par leur histoire, surtout par leur littérature. La littérature a toujours été un grand, comment dire, invariant dans la conscience française, une manière de la définir. Alors, il est bien évident que si aujourd'hui, comme j'ai un peu tendance à le penser, hélas, la France s'est éloignée de cette conscience littéraire qu'elle avait d'elle-même, alors il ne faut pas s'étonner qu'elle se dise « je suis malade, ça ne va pas et il faut que j'aille me faire soigner ». Si elle était restée dans une familiarité avec tous ces gens, Pascal, Montaigne, tout le XVIIIe siècle, etc., si elle était restée en familiarité avec ces gens qui lui apprenaient justement à vivre dans la condition humaine, à vivre dans la précarité de soi, dans le sentiment de son provisoire, alors tout irait très bien. Et donc, effectivement, là, on est dans un paradoxe curieux d'un pays qui finalement marche plutôt bien. Plutôt bien. Je parlais encore il y a 3 jours avec un ami économiste, enfin qui voyage dans le monde et qui me disait mais la France est encore un lieu qui attire l'attention, qui même à la limite peut fonctionner encore comme une sorte de modèle pour des gens qui sont dans le business, pas simplement. Là, je m'éloigne de la littérature. Et alors, il y a toutes sortes de signaux, finalement, qui donnent à penser que les choses vont pas si mal, mais il y a cette espèce d'incapacité, finalement, à s'assumer soi-même. Les Français ont oublié d'être le savoir-vivre français. C'est très curieux. Je pense que c'est un peu ça, le problème, en fait. Et l'article de Madelin, qui a longtemps dirigé la revue Les Études, qui est une très noble revue et presque aussi âgée que la revue des Deux Mondes. Je crois que nous on est les plus vieux, mais juste après c'est eux, c'est les jésuites. Et Madelin, à sa manière, au fond, pointe ça, je crois. C'est ce qui fait l'intérêt de son article. Je suis très fier de publier dans la revue.
Alors, vous évoquiez la littérature, venons-en, si vous le voulez bien, à l'Arménie. La littérature, et notamment la littérature profane, c'est le thème, c'est un des thèmes de l'article de Michel Morian. Mm-hmm. La littérature fait partie de l'identité arménienne et crée, non seulement elle fait partie, mais elle crée l'identité arménienne, notamment il y a des siècles, par l'invention de l'alphabet arménien.
Absolument. Alors là, on est évidemment dans un cas de figure passionnant parce que on y trouve tous les ingrédients, entre guillemets, permettez-moi ce mot un peu culinaire, qui concourent en effet à la formation d'une identité. C'est l'article de Michel Marian que vous évoquez, autoportrait d'une nation. Et alors, on voit très bien en lisant cet article que la Bible joue un rôle, comme très souvent d'ailleurs, très souvent un rôle d'initiation, un rôle formateur. C'est à travers la Bible que se forment les premières esquisses d'une définition de soi. Enfin, la Bible propose un modèle, elle propose une manière de se représenter. Et il est évident que dans l'histoire de l'Arménie, ça joue un rôle fondamental. On retrouve finalement à l'échelle arménienne un processus qui est peut-être qui pourrait presque servir de métaphore pour l'ensemble de l'Europe, du vieux continent, de l'Occident, s'est initié à la lecture de la Bible et tout en s'émancipant, enfin tout en trouvant son propre relief, son propre visage. L'invention de l'alphabet arménien est au fond un acte d'émancipation. On ne va pas rester simplement dans le latin ou dans le grec ou dans le... Non, on va peu à peu assimiler quelque chose et en faire son miel, en faire sa propre écriture. Mmh. Et on voit d'ailleurs que je pense aussi à un article qui est dans ce même dossier de Michel Parfenov, qui a suivi plusieurs écrivains, enfin qui reprend notamment des pages de ce très beau livre, Voyage en Arménie, du poète Ossip Mandelstam. Alors là, on se rapproche, enfin Mandelstam a été une des victimes de Staline, et il est mort au goulag, mais l'Arménie avait été un choc Donc on voit que la littérature est toujours présente. En fait.
Alors il y a, revenons-en à l'idée de crise que vous évoquiez à propos de la France. Il y a dans l'article de Claude Mutafian des propos très éclairants dans la mesure où elle explique que l'Arménie, quand elle est tombée dans une crise, elle a toujours su ressortir de cette crise et finalement s'appuyer sur cette crise pour réaffirmer son identité.
Tout à fait. Là, d'ailleurs, des comparaisons viennent à l'esprit qui valent ce qu'elles valent, parce qu'il faut, il s'agit pas non plus de. Mais on pourrait penser à l'Irlande, par exemple, des pays qui ont été habitués très tôt à une certaine expérience de la du malheur, une expérience de la détresse, de la solitude. Je crois que c'est très important, ça, en fait, cette expérience de la solitude pour un pays, et qui, loin de le vivre comme une faiblesse, se l'approprie et en effet, comme vous dites, en fait une sorte de socle, de levier, de principe de vie. C'est vrai que c'est une leçon aussi là, d'apprentissage de la crise. La crise n'est pas une anomalie. L'expérience de l'histoire, l'expérience de la souffrance, de la solitude, du malheur, mais aussi l'expérience de la communauté, l'expérience d'un sentiment de fraternité, tout cela est lié et tout cela fait que il y a une sorte d'opération presque un peu alchimique de conversion de la solitude et du malheur en principe de vie.
Alors je cite
et de force.
Je cite Claude Mutafian, l'Arménie est le premier État à avoir eu le christianisme comme religion officielle et l'Arménie occidentale a été victime du premier génocide du XXe siècle. On ne peut pas évoquer l'Arménie sans parler de ce génocide et de ce négationnisme turc. Est-ce que le combat contre le négationnisme constitue, Michel Crépu, un facteur identitaire?
Certainement. C'est impossible de dire le contraire, même s'il faut manier les mots avec précaution et même si cette question du génocide reste une question ouverte. Enfin bon, il y a cet article qui fait un peu un point justement sur l'historiographie à ce niveau-là. Et on a toujours un peu scrupule à tenir des propos un peu de surface par rapport à cela. Mais bien sûr que là, là c'est pas l'Irlande à laquelle on pense, mais bien entendu au peuple juif, à la condition juive. Je pense qu'il y a en effet dans l'expérience de l'extermination, dans l'expérience du génocide proprement dit, paradoxalement un ressourcement, enfin une expérience de la vie, du courage, de la mémoire aussi. Le fait d'être dans la position de celui qui se trouve en face de quelqu'un qui souhaite sa disparition ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur le plan de la mémoire, sur le plan de la transmission, de la confrontation avec l'oubli. Enfin, si quelqu'un m'en veut au point de souhaiter ma disparition, ça déclenche presque un processus inverse
d'affirmation
absolument de ce qui vous constitue, de ce qui vous identifie. Donc la mémoire, là, prend une place considérable.
Vous évoquiez le peuple juif. Il y a un parallélisme, finalement, parce qu'il y a également la diaspora chez le peuple arménien. Et cet élément est aussi un élément qui participe à la création d'une arménité.
Oui, tout à fait. Il existe même les juifs arméniens, qui cumulent d'une certaine manière les deux. Absolument. On parlait de la mémoire, mais l'exil, la diaspora, la séparation sont là aussi des éléments bien entendu, constitutifs d'un sentiment d'appartenance à une aventure. C'est pour ça que j'ai voulu intituler ce dossier Aventure d'une nation. Peut-être aussi inconsciemment, je veux dire, parce que j'y ai pas pensé comme ça sur le coup, mais peut-être aussi en pensant à l'Amérique, ce qui pourra peut-être vous surprendre, mais le côté Oui, aventure, c'est-à-dire qu'on vit une aventure, mais c'est aussi très biblique, et l'Amérique procède de la Bible, hein, il ne faut jamais oublier ça non plus, elle se vit comme un épisode biblique, l'Amérique. Donc, la Terre promise, tout ça, enfin, bon... donc, j'aime beaucoup cet aspect-là, aventure, parce que ça porte aussi un inachevé, enfin, un horizon inaccompli. L'aventure, c'est l'aventure, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on est en route, enfin... Et ça, je crois qu'en effet, c'est très biblique, c'est très juif, c'est quelque chose de très profondément ancré, je crois, dans la psyché humaine. Enfin, la vie est une aventure, c'est un chemin, une route. Et l'Arménie est là comme peut-être un des exemples particulièrement emblématiques de cette aventure humaine que partagent tous les hommes.
Eh bien, Michel Crépu, merci beaucoup.
Mais c'est moi.
Je renvoie nos auditeurs à votre revue disponible en kiosque et en librairie, ainsi que sur votre site internet www.revuedesdeuxmondes.fr.
On va enrichir ce site au fil des semaines et des mois, là. Il sera mieux qu'il l'est pour l'instant.
Donc, je répète l'adresse, www.revuedesdeuxmondes.fr. Vous y retrouverez donc dans ce numéro de la Revue des Deux Mondes de nombreux autres articles, notamment la réédition de l'article de Victor Langlois qui parle des massacres de Taurus, qui sont le prélude au génocide du début du XXe siècle. Merci beaucoup.
Merci encore.
Et à très bientôt.